la Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette dernière semaine de Covidienne de 2020. Et pour commencer cette semaine, on va parler solidarité. En effet, s'était tenue fin novembre dernier une collecte de denrées alimentaires menée par la Banque Alimentaire du Maine-et-Loire. Léo s'est entretenu la semaine dernière avec le président de cette banque alimentaire, Patrice Houdbin, qui est revenu sur cette collecte et sur les actions qu'il mène de manière plus générale. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Bonne émission.
Vous les avez sans doute vus à l'entrée des magasins alimentaires le dernier week-end du mois de novembre. Toutes et tous, vêtus de leur gilet orange, les bénévoles de la Banque Alimentaire du Maine-et-Loire organisaient une collecte de denrées alimentaires. Une collecte basée sur la bonne volonté des clientes et clients. L'heure est venue de tirer le bilan de ce temps fort pour la Banque Alimentaire. Pour parler de tout ça en détail, nous recevons aujourd'hui Patrick Houdbin, président de l'antenne de la Banque Alimentaire du Maine-et-Loire. Bonjour Patrice.
Bonjour.
On peut peut-être commencer par un petit historique, brièvement, de la Banque Alimentaire. Depuis quand existe ce réseau national qu'on retrouve ici à l'échelle locale à Angers?
Les banques alimentaires sont nées en 1984 sur le territoire français. Et la Banque Alimentaire de Maine-et-Loire, spécifiquement, est née, elle, en 1985. C'était l'époque où il y a eu pas mal de grands froids, de choses comme ça, qui ont amené des difficultés. Et puis, il y a une coluche aussi, qui, au niveau des Restos du Cœur, et en même temps, a fait en sorte que tout ça se développe. Donc, la Banque Alimentaire est une fédération nationale. Cette fédération nationale regroupe les différentes banques alimentaires des différents départements français, et on est implanté sur 79 départements, sachant que il y a des départements qui peuvent éventuellement avoir d'aide de la Croix-Rouge, d'autres associations caritatives. Donc 79 départements, et chaque département a son libre arbitre par rapport à sa propre association.
Il y a une dimension européenne aussi, vous êtes présent dans d'autres États européens.
Il y a une dimension européenne puisqu'il y a 27 pays, je crois, qui sont adhérents à la FEBA, Fédération Européenne des Banques Alimentaires. Et on a tous un petit peu la même idée, c'est-à-dire lutter contre le gaspillage et mener des actions caritatives, principalement alimentaires, auprès des populations en difficulté. Et l'idée, elle a germé en fait en 1967, c'est vieux, aux USA, et ils avaient appelé ça Food Bank. D'où le nom Banque Alimentaire aujourd'hui en France. Et cette idée est arrivée en 84, donc comme je le disais tout à l'heure, sur le territoire français. L'idée, c'était donc de voir tous ces invendus et tous ces produits alimentaires consommables partir dans les poubelles, et alors qu'à côté de ça, il y avait des populations qui étaient en grande difficulté, qui avaient à peine à manger. À l'époque, on disait qu'on luttait contre la famine. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu exagéré de dire qu'on lutte contre la famine. Par contre, on lutte contre la précarité. On aide les gens à mieux vivre. Je pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui en France, on meurt de faim. C'est peut-être un petit peu exagéré. Mais il y a des gens qui sont en très très grande difficulté. Et ces gens-là ont besoin d'être aidés.
C'est donc vraiment la raison d'être de la Banque Alimentaire, sortir, aider les gens qui sont dans la précarité alimentaire.
Oui, oui, exactement. Oui. Depuis le début du confinement, on a des populations même qui sont amenées à être en beaucoup plus grande difficulté qu'avant. Même des gens qui pouvaient avoir le RSA, par exemple. Ces personnes-là, à une époque, pouvaient peut-être encore en vivre, même très chichement, puis avoir peut-être à côté quelques aides, quelques soutiens qu'ils n'ont plus du tout. C'est la même chose pour les étudiants qui n'ont plus tous ces petits boulots qui leur permettaient de vivre. Enfin, voilà. Bon, on est dans une année un peu particulière. C'est vrai, c'est pas le fonctionnement habituel de la société et de la banque alimentaire de façon générale.
Et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cet entretien. Concrètement, comment est-ce que vous fonctionnez dans l'antenne locale d'Angers? Vous avez combien de bénévoles?
Alors,
plutôt des jeunes, des retraités?
Ce sont quasiment que des retraités. Le travail, tout le fonctionnement de la banque alimentaire se fait dans la semaine. Donc effectivement, il faut être disponible dans la semaine. On a quelques personnes qui sont en recherche d'emploi et qui, plutôt que de rien faire, viennent donner un coup de main. Ça représente environ 150 personnes, basées sur Angers, Cholet et Saumur. Donc 150 personnes qui viennent, alors bah, une demi-journée par semaine, une journée par semaine, un petit peu en fonction de leur emploi du temps, de leur envie, de leur disponibilité, donner un coup de main. On estime en fait que ces 150-160 bénévoles effectuent le travail de 22 et 25 équivalents temps plein. C'est comme si on était une petite entreprise de 23 personnes, on va dire. C'est pas rien, c'est une grosse association. Et on gère pas mal de choses. Notre fonctionnement, c'est bien de récupérer, évidemment, des denrées alimentaires. Donc, on les récupère, ces denrées, auprès d'entreprises de l'agroalimentaire, qui nous donnent aujourd'hui des volumes conséquents. Aujourd'hui, on parle en camion. On parle plus en cagette. Ça a complètement changé depuis 30 ans. Ces denrées sont récupérées, alors, auprès d'entreprises agroalimentaires, auprès des grandes surfaces, puisqu'on récupère tous les jours dans ce qu'on appelle la ramasse. On récupère des produits qui sont plutôt en fin de vie, mais qui sont consommables, dont les dates ne sont pas dépassées, bien entendu. C'est un petit peu des produits qu'on trouve dans les rayons des grandes surfaces qui sont un peu en démarque, quoi.
Voilà, c'est l'une des trois grandes missions, on va dire, de la Banque Alimentaire, qui sont les collectes, les ramasses et la distribution d'alimentation.
Alors, nous fonctionnons avec des partenaires, qui sont des associations ou des CCAS, des centres communaux d'action sociale. Et ce sont ces associations et ces CCAS qui sont en lien direct avec les populations fragilisées. Donc nous servons ces associations. On a une sorte d'intermédiaire, donc on les accompagne aussi. On est vraiment partenaires.
Justement, qui sont un petit peu les associations vers lesquelles vous redistribuez les denrées alimentaires que vous collectez, et combien de personnes bénéficient de cette aide? Si vous avez peut-être quelques chiffres pour illustrer.
Oui. Et nous, sur le département, nous avons 111 associations et CCAS qui assurent cette redistribution. Ça va du petit CCAS qui va peut-être avoir 10 personnes à prendre en charge, à de grosses associations sur Angers, comme toutes les Saint-Vincent-de-Paul ou d'autres, hein, je ne les cite pas tous, qui vont avoir 200, 300 bénéficiaires à prendre en charge. Donc, ce sont des associations de tout ordre. Hein, plutôt sur les villes, on est sur des associations. Sur les campagnes, on est plutôt sur les CCAS des communes qui assurent cette distribution.
Comment est-ce que vous parvenez à assurer dans vos locaux la bonne conservation des produits que vous récupérez de cette façon?
Ah ben, tous les produits que l'on appelle les produits secs, donc qui sont des produits type paquets de riz ou boîtes de cassoulet, donc là, il n'y a pas de souci de conservation, on les stocke, on les surveille, on essaie de faire en sorte de pas se faire attraper par les dates de consommation, même si, et ça je tiens bien à le rappeler, sur ces produits-là, les dates que tout public peut trouver dessus sont des dates de qui donnent une préférence, mais qui ne donnent pas un risque sanitaire ou un danger alimentaire si on dépasse la date, ce qui n'est pas le cas pour les produits frais. Les produits frais, ben écoutez, on les conserve, on les trie, on les transporte dans des camions frigos, dans des frigos ou dans des congélateurs. Le congélateur à notre disposition ici à Angers fait 300 mètres carrés. Donc on a moins 22 degrés à 300 mètres carrés à moins 22 degrés. On a des frigos pour 70 ou 80 mètres carrés, j'ai plus en tête la surface exacte, et les bénévoles, comme je le disais tout à l'heure, qui trient tous les produits un par un. On reprend tous les produits que l'on récupère dans les grandes surfaces, on les trie un par un en vérifiant la date. Et on redistribue aux associations en fonction de leur temps, leur date de distribution pour qu'on soit toujours avant la date butoir de la DLC. Donc il faut bien imaginer que les bénévoles qui sont des gens plus âgés, la moyenne d'âge, je pense qu'on doit être autour de 70 ans peut-être, hein, ces gens-là travaillent dans le froid, à 4 degrés, pour trier des produits. C'est pas toujours facile, ça se fait. Mais c'est pas. Alors c'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, il fait plus froid dehors, donc c'est bien. Mais c'est pas toujours le cas.
Et c'est tout à leur honneur. On est bien d'accord là-dessus.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des produits dont vous êtes particulièrement demandeur? Je pense notamment à ce qui concerne l'hygiène, qui rentre pas forcément dans l'alimentaire à proprement parler, évidemment, mais dont on sait que les populations ont parfois grandement besoin.
Oui. Alors c'est vrai que les banques alimentaires à l'origine s'attachaient simplement à l'alimentation. Aujourd'hui, on s'ouvre bien sûr en fonction des besoins. Donc tout ce qui est produits d'hygiène, on en a majoritairement dans les collectes et on assume, on redistribue. C'est pas toujours évident. Je pense tout ce qui est produits d'hygiène et je pense aussi aux produits bébés. Quand on donne par exemple des laits maternisés, c'est difficile à redistribuer parce que on va en donner une boîte d'une marque, une boîte d'une autre marque, etc. Donc ça fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et des produits d'hygiène, ben voilà, on en récupère, on en distribue. Par contre, on a beaucoup de mal à en obtenir des entreprises parce que ce sont des produits qui ne se perdent pas.
On va passer à présent un petit peu à l'actualité un petit peu plus délicate depuis la crise sanitaire et les confinements qui nous affectent depuis le mois de mars. D'abord, comment vous avez réagi à cette annonce de premier confinement? Qu'est-ce que ça a impliqué pour la Banque alimentaire du Maine-et-Loire?
Pour nous, ça a été la grande interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que tous les gens bénévoles partent pas avec des problèmes de santé? Donc, on a fermé 8 jours pour se retourner. On a fermé 8 jours. On en a profité pour mettre en place un protocole et puis on s'est organisé. Il faut savoir aussi que les associations, dans un premier temps, ont été un peu moins demandeuses, tout simplement parce que les gens sortaient pas de chez eux, hein, y compris les personnes en difficulté. Et certaines associations, principalement sur la ville d'Angers, ont été un peu en difficulté parce que les locaux étaient fermés. Donc ça nous a libéré un peu de temps finalement, mais c'est revenu très vite.
Donc il y a eu vraiment une nécessité de réorganisation dans la distribution avec les associations et les CCAS.
Ça a été tout simplement un fonctionnement par rendez-vous, y compris avec les bénévoles. C'est-à-dire que les bénévoles venaient à la demande et non pas d'une façon un petit peu routinière comme ça pouvait être avant. Donc on savait pertinemment et très très précisément le nombre de personnes dont on avait besoin pour faire le travail et on demandait aux 2, 3, 4, 5, 10, 12 bénévoles dont on avait besoin ce jour-là de venir. Et donc avec le protocole sanitaire que tout le monde pouvait appliquer, les masques, le gel, enfin les masques au début ça a été un peu dur, mais voilà, on s'est organisé comme ça. Sachant quand même que pour toutes les personnes qui travaillent dans le froid, on l'a encore entendu très récemment sur les médias, le virus se développe dans le froid. Donc tous les gens qui travaillent dans les frigos ou dans les congélateurs sont des personnes plutôt à risque et dans un environnement plutôt porteur à la contamination. Donc évidemment, notre responsabilité, c'est vraiment de faire le maximum pour qu'il n'y ait aucun problème. Et on n'a eu aucun problème depuis le début.
Et donc vous avez pu mener à bien les ramasses, j'imagine, et
Alors la ramasse, on l'a arrêtée. Moi, c'est moi qui ai souhaité, lors du premier confinement, qu'on ne fasse plus les ramasses parce que je trouvais que le risque de contamination pour les bénévoles et les bénéficiaires en bout de chaîne, parce qu'il ne faut pas oublier que les produits qu'on ramasse le lundi, on les distribue le mardi. Donc on ne savait pas à l'époque, on ne savait pas trop quelle était sa vitesse de propagation, sa vitesse de destruction du virus. Moi, j'ai pris la décision que l'on arrête les ramasses pendant un mois, je crois, à peu près, pour prendre le temps de voir un petit peu ce qu'il en était. Je ne voulais surtout pas qu'il y ait des problèmes de contamination au niveau des bénévoles et au niveau des bénéficiaires à plus long terme.
Quel impact cela a eu sur les stocks, justement, cet arrêt des ramasses?
Je dirais peut-être pas si lourd que ça dans un premier temps, parce que il y a eu arrêt des ramasses, c'est vrai, mais nous avons été contactés par tout un tas de sociétés qui servent les restaurants, qui servent les cantines scolaires, qui servent et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des stocks considérables de produits. Pas considérable, c'est des stocks utiles, mais ça représentait des masses importantes. Donc ça a un peu pallié le problème. Aujourd'hui, par contre, on s'aperçoit que les produits de ramasse sont, dans les GMS, dans les grandes et moyennes surfaces, sont plutôt en diminution. On ramasse moins de produits. Je ne sais pas, il va falloir qu'on analyse et qu'on voit un petit peu pourquoi. C'est un état de fait. Et puis après, il faut servir les personnes. Jusque-là, la banque alimentaire servait, allez, on va dire entre 18 et 20 000 personnes par an sur le département. Hein. Aujourd'hui, on est à peu près au même nombre. Mais moi, je craignais une augmentation septembre-octobre, enfin dès la fin de l'été. Et en réalité, je pense que ça va plutôt être au début 2021. En ce qui concerne la banque alimentaire, c'est peut-être pas vrai pour tous les réseaux. Après, c'est des modes de fonctionnement que nous avons tous les uns les autres. On a la même finalité avec des fonctionnements malgré tout quelquefois différents. Moi, je pense que chez nous, le problème va arriver un petit peu plus tard. Je crois que les gens bénéficiaires d'aide alimentaire ont encore peur de venir dans les centres où ils peuvent être aidés parce qu'il y a du monde, parce que les risques de contamination, c'est comme partout. On nous dit pas plus de six, mais ça entretient la peur, la crainte.
Pendant le premier confinement, vous aviez planifié une collecte qui n'a pas pu se dérouler. Et je le disais en début d'entretien, les 28, 29 et 30 novembre, vous avez maintenu une collecte de denrées alimentaires dans le Maine-et-Loire. Comment vous êtes organisé pour réussir à maintenir justement cette collecte?
La collecte d'avril dernier, évidemment, a été supprimée, séance tenante, pour ainsi dire. Par contre, je tiens à le dire aussi, les services de l'État nous ont aidés. Ils nous ont bien aidés pour qu'on puisse acheter de la marchandise. Donc ça nous a permis aussi de tenir le choc finalement. Pour cette collecte de novembre, nous craignions aussi la difficulté et particulièrement le risque par rapport au virus. Donc on a décidé d'essayer de la faire en ce que l'on appelle nous dématérialiser. C'est-à-dire qu'on a vu avec les grandes enseignes à ce que l'on puisse simplement proposer aux personnes un flyer et que les personnes puissent scanner un code qui nous amène des financements par rapport à cette collecte. Ça veut dire, en gros, nous avons récupéré 21 tonnes de produits et l'équivalent de 80-90 tonnes que l'on va acheter dans les magasins. C'est-à-dire que dans chaque enseigne, la somme récupérée va servir à acheter des produits dans l'enseigne. L'avantage, c'est que les personnes bénévoles dans les magasins n'étaient pas en contact direct avec la clientèle. Les caissières, la clientèle elle-même était protégée. Ce qu'on donnait les flyers, c'était vraiment un geste très simple et sans risque sanitaire. Et puis l'autre avantage derrière, enfin le double avantage derrière, c'est que les 60 ou 70 tonnes de marchandises que l'on va acheter dans les magasins, on n'a pas à les trier. Toutes les marchandises que l'on récupère dans une collecte, donc c'est 80, 90 tonnes, eh bien, on les retrie, puisqu'on a ça en vrac, il faut mettre ensemble produit par produit, enfin type de produit par type de produit pour pouvoir redistribuer après. Grâce aux mines d'Angers, récupérer un grand local qui nous a permis de faire ça dans des conditions sanitaires sécurisées. Et puis l'autre avantage, c'est que la masse financière récupérée par rapport à ces bons flashables là, ben, ça nous permet d'acheter des produits dont on a réellement besoin, parce que quelquefois, les gens ne connaissent pas l'état de nos stocks, bien entendu. Un exemple tout bête, par le système européen, on a récupéré en ce moment beaucoup de thon. Voilà, on a des boîtes de thon, beaucoup de boîtes de thon. Alors c'est vrai qu'on n'a pas racheté de thon, mais dans les grandes surfaces, les gens peuvent penser, des personnes donatrices, hein, et c'est très bien, pensent que les conserves de poissons sont des choses intéressantes. Oui, ce sont des choses intéressantes, mais on en a. Enfin, on en avait pas. Vous voyez, ça nous permet d'acheter ce dont on a besoin. Et puis de différer dans le temps. Donc c'est ce qui nous a permis de faire cette collecte dans de bonnes conditions, avec un résultat final largement à la hauteur de celui de l'année dernière, quand on aura tout transformé en denrées.
Donc vous êtes plutôt satisfait de la collecte, tant à la fois oui. Sur le volume de denrées récupérées, que sur le fait que c'était une collecte peut-être plus ciblée au niveau des produits que vous avez pu récupérer que les éditions précédentes.
Oui, c'est ça, oui. Oui, alors c'est une bonne solution. Moi, je pense que c'est aussi un tirage intéressant qu'il faut prendre. Les collectes, c'est un système qui existe depuis 1984, quasiment l'origine des banques alimentaires. Mais 35 ans, 30, un petit peu plus, 36 ans après, peut-être qu'il faut moderniser un petit peu le système. Alors on nous dit, oui, mais les gens aiment bien donner un produit de la main à la main, c'est... Ouais, là, on peut plus. Donc, il faut faire autrement. Donc, c'est l'occasion de prendre un virage. Et puis, je pense que ce sont peut-être ces nouvelles façons de code barre avec une somme de 5 euros. C'est peut-être une façon qui va plus séduire les populations plus jeunes, qui sont habituées au drive, qui sont habituées à la commande sur Internet, à tout un tas de choses comme ça. Donc, finalement, au dématérialisé. C'est vrai que les personnes âgées, pas trop, mais les personnes jeunes, oui. Alors, pensons à eux, pensons aux jeunes. C'est l'avenir.
Et c'est un petit peu de cette façon que vous envisagez la sortie de crise. D'un côté, plus de demandes, et de l'autre, des collectes plus ciblées qui vont peut-être permettre, donner envie, en tout cas aux plus jeunes, de donner à la banque alimentaire.
Oui. Ben oui. C'est vrai que ce nouveau système par flashage, je vous dis, ça permet de demander... demander au drive, tous les drives, de mettre des choses en place. C'est pas très compliqué, c'est jamais que de l'informatique. Donc, et puis il y a certainement toutes les populations jeunes, hein, plus jeunes en tout cas, qui utilisent ces formules-là, seront certainement intéressées, je n'en doute pas.
Et j'imagine aussi que le retour, d'une certaine façon, le retour des collectes et de l'activité a permis aux bénévoles de retrouver une forme de sociabilité et de partage perdu pendant le confinement. Et ça a dû faire beaucoup de bien à tout le monde, j'imagine.
Oui. Le confinement nous a certainement permis, au niveau du fonctionnement habituel de la banque alimentaire, de nous réorganiser, de voir les choses un petit peu différemment, autrement. Et finalement, c'est on va dire un mal pour un bien. On va pas souhaiter que ça continue. Hein. Par rapport à la solidarité, moi j'ai été étonné de la solidarité au sein des bénévoles hein, qui ont accepté de continuer à venir. Quelques-uns nous ont dit, ben non, tu comprends, moi j'ai 85 ans, je viens pas. J'ai dit oui, reste chez toi, protège-toi. Mais la plupart ont répondu présent, toujours à la demande. Et ça, c'est chapeau quoi.
Quels sont les prochains grands rendez-vous pour la Banque Alimentaire? Vous avez peut-être une date de nouvelle collecte à annoncer ou une campagne de financement, que sais-je?
La prochaine collecte, on va certainement refaire une collecte au printemps. Je pense qu'on l'amènera de la même façon que celle de novembre là. J'ai pas de date encore parce qu'on se rencontre, on se voit le 14, voilà. Donc on prend la décision le 14 décembre sur la date. Faut qu'on voit ensemble, qu'on fasse un petit peu le retour entre nous de la collecte de novembre, voir ce qui a marché, pas marché, comment on peut faire mieux, quelle marge de progression on a, parce qu'il y en a une, il y en a sous le pied. On va refaire donc cette collecte de printemps. C'est difficile hein, de coincer des dates entre les vacances scolaires, les collectes des autres réseaux, les ceci, les cela. Donc voilà, on va avancer là-dessus gentiment.
Et on est aussi évidemment toutes et tous en attente des prochaines décisions gouvernementales. En tout cas, merci Patrice d'avoir répondu à nos questions. À celles et ceux qui nous écoutent, la Banque Alimentaire a besoin de vous, qu'il s'agisse de donner un peu de produits ou même d'enfiler le gilet orange. La Banque Alimentaire et les personnes dans le besoin comptent sur vous pour les soutenir. Au revoir Patrice et encore merci.
Moi aussi, je vous remercie.
Well, I remember when Sunday was the Rice and Peas Day, yeah, and family would get together, you know, and Trojan and Studio One would be playing on the stereo, and sometimes in the garden we would go. You go in your bedroom, you plug in your phone, and you put the tape on, and you listen to the song Clash. On Saturday night, you hear your brother and sister talking about going to Clash, and you are too young to go. But you know your time will come soon, when you can go and enjoy the sound. And instead of hearing it on tape, you'll be able to see your favorite DJ live and direct, and you can work up a sweat, you know. They come and make them lively and them enjoy. Girls and guys, they're moving around, they don't feel shy. Alright, at the festival, yes, them in a good hearty way, they are the rebels. Oh yeah, young people, them having fun in the rain and the sun. Your mother and your friend, yeah. Let those memories live on inside your mind, and those memories they will never die. Give up your seat to the elderly and for a lady with a baby, yeah. And remember, you can be kind with a smile. A smile can make someone's day all the worthwhile, you know?
À l'instant, c'était Adam Prescott et Dimas G, They Reminisce Over You. Et quant à nous, eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Ce soir, retrouvez une rediffusion de l'Artichaut ainsi que vos émissions Reggae Roots Dub, Melodub, suivi de Bamboo Station. On se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin. Très belle soirée sur nos ondes.